Vous écoutez France Musique.
Merci Bénédicte Robin et à bientôt. Le Grand Kaléidophone, c'est parti.
Le Grand Kaléidophone, Pierre Charvet.
Bonsoir à tous. Vous ne le savez peut-être pas, si vous habitez loin de Paris, ou que vous ne passez pas souvent devant la maison de la radio, mais Radio France est en travaux depuis quelques années, et pour quelques temps encore. Récemment, dans le cadre de ces travaux, une salle mythique de notre maison ronde a réouvert, c'est le studio 104, qui porte désormais le nom de salle Olivier Messiaen. Notons qu'Olivier Messiaen, ce grand compositeur français, a aussi donné son nom à une montagne aux États-Unis, dans l'Utah précisément. Le mont Messiaen, c'est dire son rayonnement planétaire exceptionnel, ce dont on ne se rend pas forcément compte vu d'ici, où la majorité des Français pensent toujours que Johnny Hallyday doit être connu en dehors de nos frontières. Bref, la réouverture de cette salle Olivier Messiaen, qui depuis plusieurs décennies a été le lieu de la création de chefs-d'œuvre de notre temps, la réouverture de cette salle nous a donné l'idée de saluer encore une fois ce grand compositeur, en constituant ce soir un portrait en forme de mosaïque. Une mosaïque constituée par quelques singularités du compositeur. Ce soir donc, dans le Grand Kaléidophone, il sera question de couleurs, de temps, de mode, d'oiseaux et de transmission. Car nous évoquons, de manière ni exhaustive ni systématique, cette grande figure à la personnalité complexe, née en 1908 et mort en 1992, Olivier Messiaen.
Thank you.
Orgie de sons, de timbres et de couleurs, c'était un extrait du final de la célèbre Turangalila symphonie d'Olivier Messiaen. Messiaen, ce grand compositeur à qui nous consacrons ce soir ce grand kaléidophone. Lorsque l'on pense à Messiaen, on pense justement et immédiatement au mot couleur. Pourquoi ? Eh bien, parce que Messiaen était synesthète, c'est-à-dire que dans son cerveau, à l'écoute d'un son, s'associait automatiquement une couleur. Lorsque j'entends ou que je lis de la musique, disait Messiaen, je vois intérieurement par l'œil de l'esprit des couleurs qui bougent avec ma musique. Messiaen explique que de ces constatations, de cette altération de la perception, il en a même déduit certaines lois de composition. Et il n'est donc pas étonnant de voir Messiaen parler de ses propres œuvres en les décrivant vraiment très simplement et concrètement avec un vocabulaire de couleurs. Notons la plaisanterie d'un autre célèbre synesthète sur ce sujet de la synesthésie, Vladimir Nabokov, qui disait « Le pionnier de l'étude de la notion d'audition colorée fut, pour autant que je sache, un physicien albinos en 1812. » Fin de la citation. « En ce qui me concerne, je n'ai jamais vu une couleur à l'écoute d'un son. Pour moi, si les sons se colorent, car ils se colorent bien sûr, ce n'est pas de manière visuelle. Et le fait d'être synesthète ou pas, et même de croire ou pas à la synesthésie, n'a absolument aucune incidence sur notre capacité à apprécier la musique de Messiaen. Messiaen, d'ailleurs, s'était lui-même gentiment moqué de certains de ses élèves, qui, expliquait-il, « par politesse me disent voir des couleurs en entendant des accords alors qu'ils ne voient rien du tout ». Une des œuvres les plus célèbres de Messiaen est le Quatuor pour la fin du temps. Écoutons ce que dit Messiaen de ce passage. Il décrit les accords de piano qui accompagnent, qui entourent comme un carillon lointain, précise-t-il, la mélodie jouée par le violon doublé du violoncelle. Messiaen écrit « C'est une cascade douce d'accords bleus et mauves, or et vert, violet rouge, bleu orange, le tout dominé par des gris d'acier. » Je ne sais pas ce qui participe de l'autosuggestion ou pas, ou que nous avons lu les explications de Messiaen avant d'écouter ce passage particulier, mais toujours est-il que sous le violon et le violoncelle, les douces cascades de piano qui vont suivre sonnent évidemment gris d'acier. Un extrait du Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen avec ses accords de piano colorés, mais dominés, précise le compositeur, par des gris d'acier. Mais je le disais à l'instant, que l'on voit ou non des couleurs dans la musique de Messiaen n'a finalement aucune importance. C'est quelque chose que je répète souvent, je vais donc le dire encore une fois, mais en art, bien plus qu'en sport, ce qui compte, c'est le résultat. En tant qu'auditeur, peu nous importe de savoir quelle couleur Messiaen voyait lorsqu'il composait cette musique, si cette musique est si réussie et qu'elle possède une capacité à nous émouvoir. Et pour Messiaen, la couleur est finalement un moyen, comme un autre, non seulement de structurer des harmonies, mais aussi des structures plus globales à l'échelle de l'œuvre entière, comme dans ces couleurs de la cité céleste, pour piano solo, orchestre avant et percussion. Les thèmes mélodiques et rythmiques, affirme-t-il, évoluent à la façon des couleurs. En poussant un peu, nous pourrions affirmer que cette phrase ne veut rien dire. Et pourtant, cette musique, avec un très grand contrôle par le compositeur de l'harmonie, de l'orchestration, donc des timbres et donc des couleurs sonores, est géniale et c'est bien ce qui compte. au piano Catherine Courneau, l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Hoon Chung. C'était un extrait des Couleurs de la Cité Céleste d'Olivier Messiaen, compositeur dont nous dressons brièvement le portrait ce soir sur France Musique. Alors juste avant ces Couleurs de la Cité Céleste, nous avons écouté un bref extrait de ce qui est sans doute la partition la plus célèbre du compositeur, une de ses œuvres les plus emblématiques, le Quatuor pour la fin du temps. Peut-être même une des œuvres les plus légendaires de la musique au XXe siècle. D'une part, parce que c'est un des morceaux les plus joués sur notre planète, du XXe bien sûr, et qui a certainement contribué au rayonnement de la musique de Messiaen à travers le monde entier, et d'autre part, parce que c'est l'histoire dramatique de la création de cette pièce, finalement assez bizarre, a certainement frappé les esprits. Car c'est effectivement le 15 janvier 1941, dans le froid d'un camp de prisonniers de guerre en Allemagne, le Stalag 8A, qui était joué pour la première fois par Jean Le Bouler, Henri Acoca, Étienne Pasquier et Olivier Messiaen lui-même, cette œuvre singulière à plus d'un titre, donc le Quatuor pour la fin du temps. Singulière déjà par son effectif, un violon, une clarinette, un violoncelle et un piano. « J'ai écrit, dit Messiaen, pour les instruments que j'avais sous la main. Le Stalag était enseveli sous la neige, il faisait un froid atroce, nous étions 30 000 prisonniers. » Le violoncelle d'Étienne Pasquier n'avait que 3 cordes, les touches de mon piano s'abaissaient et ne se relevaient plus. Nos costumes étaient invraisemblables. On m'avait affublé d'une veste verte, complètement déchirée, et je portais des sabots de bois. L'auditoire réunissait toutes les classes de la société, prêtres, médecins, petits bourgeois, militaires, ouvriers, paysans. La fin du temps, cela vient de la citation que Messiaen place en exergue de l'œuvre, tirée de l'Apocalypse de saint Jean. Je vis un ange plein de force descendant du ciel. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il leva la main vers le ciel et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, disant « Il n'y aura plus de temps ». Fin de la citation. Et c'est là tout le propos fascinant de cette œuvre. Comment arrêter le temps, alors que par nature la musique se déroule dans le temps? Comment donc donner à l'auditeur cette impression de temps arrêté? Alors c'est là qu'intervient le langage rythmique si typique d'Olivier Messiaen, qu'il prend même soin dans la partition du Quatuor d'expliquer par une page intitulée « Petite théorie de mon langage rythmique ». Alors en musique, nous graduons le temps, continu, non pas avec des secondes, mais avec la pulsation, ces pulsations qui sont organisées en mesures. Les rythmes créés par Messiaen, à partir de ce que l'on appelle des valeurs ajoutées, vont contribuer pour l'auditeur à l'abolition de la perception d'un temps régulier, d'un temps donc qu'il ne sera plus possible de mesurer. Un exemple, eh bien voilà un rythme, ta-ta-ta-ta-ta. En ajoutant une valeur arbitraire au milieu, à la manière de Messiaen, on casse la régularité. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ce procédé de déconstruction du temps se retrouve de manière éclatante dans le mouvement du quatuor intitulé « Danse de la fureur pour les 7 trompettes », où les 4 instruments, à l'unisson, réalisent ces figures rythmiques au sein de mesures toutes irrégulières que Messiaen ne prend même plus la peine de chiffrer. Je dis cela pour les musiciens. À l'époque, cela paraissait extrêmement difficile à interpréter. Extrait de la danse de la fureur pour les 7 trompettes, extrait donc du Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. Alors voilà maintenant un autre procédé utilisé par Messiaen pour arrêter le temps. Un procédé d'ailleurs bien plus simple que ces combinaisons rythmiques que nous venons d'écouter, puisque la sensation de temps nous est donnée par la possibilité qu'on en a de le mesurer, d'avoir conscience donc des pulsations qui se succèdent. Eh bien, si maintenant on étire le temps à l'infini, si on augmente la durée des notes au maximum, là aussi, le temps se suspend peu à peu. Et c'est exactement ce que Messiaen fait dans la partie intitulée « Louange à l'éternité de Jésus ». On y entend de magnifiques phrases de violoncelle, toujours dans un registre aigu, avec pour seul support des accords de piano. Au début de cette partie, Messiaen a écrit sur la partition « Infiniment lent, extatique ».
Thank you.
Au violoncelle, Albert Tétard, au piano, Daniel Barenboim, c'était la louange à l'éternité de Jésus, mouvement extrait du quatuor pour la fin du temps, d'Olivier Messiaen, Messiaen dont nous faisons le portrait ce soir dans le Grand Kaléidophone sur France Musique. Alors il y a une autre chose qui vient immédiatement à l'esprit quand on évoque Messiaen, ce sont bien sûr les oiseaux. Les oiseaux sont les plus grands musiciens qui existent sur notre planète, a même dit Messiaen. Messiaen et les oiseaux. Cette singularité du compositeur a certainement aussi contribué à faire diffuser le nom ou l'image de Messiaen vers un public largement au-delà de celui de la musique contemporaine. Attention, chez Messiaen, cela n'a rien d'une pause, ni même d'une velléité momentanée qui masquerait un manque d'inspiration. Le chant des oiseaux irrigue toute son œuvre. « Les notations de chants d'oiseaux, explique Messiaen, je les fais dans la nature, au printemps, à la saison des amours. J'utilise du papier à musique et un carton à dessin pour prendre appui, comme si je faisais une dictée musicale. Mais c'est une dictée particulière, qui exige une attention et une rapidité décuplée. L'oiseau chante en effet très rapidement, et quand je note la première strophe, il chante déjà la deuxième. » Fin de la citation. Toutes ces collectes de chants d'oiseaux servent ensuite de matériaux de base au développement musical du compositeur. C'est-à-dire que tout simplement, Messiaen se sert des caractéristiques mélodiques, rythmiques, mais aussi des timbres des chants d'oiseaux, comme d'un matériau musical traditionnel. Matériau musical dont la spécificité aura des conséquences. Par exemple, ce sont les oiseaux, dit Messiaen, qui m'ont conduit vers la superposition des tempos. Quand on assiste au réveil des oiseaux, 50 voix peuvent se superposer dans des tempos différents. Le résultat est un fouillis impénétrable, un prodigieux enchevêtrement, cependant toujours harmonieux. C'est ce que j'ai parfois voulu traduire dans ma musique. D'autre part, Messiaen ne se contente pas de traduire la mélodie chantée par un oiseau. Son timbre lui importe tout autant. C'est une des sources de la coloration de mon orchestration, dit-il, car pour traduire des timbres, il faut des combinaisons harmoniques. Écoutons donc comment Messiaen traduit dans son œuvre, Oiseaux exotiques, au piano puis à l'orchestre, les chants du Ménat hindou, de la Grive des bois au piano, suivi à l'orchestre d'une multitude d'oiseaux en tout genre, dont le Verdun de Malaisie et le Troupial de Baltimore.
Thank you.
au piano, Yvonne Loriot, l'ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Boulez. C'était un extrait de « Oiseaux exotiques » d'Olivier Messiaen, une interprétation en concert. Les couleurs, le temps, les oiseaux. Voici maintenant un troisième mot pour affiner notre portrait d'Olivier Messiaen, « mode ». Attention, pas la mode, mais bien le ou les modes. Ce qui est en fait un prétexte pour évoquer une des œuvres de Messiaen les plus étonnantes qui soit, pour le piano, une œuvre appelée « Mode de valeur et d'intensité ». Notons tout de suite que si cette œuvre eut une renommée immense, Messiaen lui-même était assez agacé de ce rayonnement. Je le cite « J'ai été contrarié de l'importance démesurée que l'on a accordée à cette petite œuvre de 3 pages, sous prétexte qu'elle aurait été à l'origine de l'éclatement sériel de tous les paramètres musicaux. Cette musique a peut-être été prophétique, historiquement importante, mais musicalement, c'est 3 fois rien. » Alors, dans le titre de cette œuvre, il y a « mode ». Qu'est-ce qu'un mode ? Un mode, tout simplement, c'est une sorte de gamme, plus précisément une échelle de son ou de hauteur sonore organisée. Vous êtes par exemple familier du mode majeur, sur lequel je peux siffler au clair de la lune. C'est très difficile de siffler juste. Si j'utilise le mode mineur pour jouer la même mélodie, celle-ci prendra une autre couleur. Un mode, donc, c'est une échelle de son qui va donner une couleur particulière à la musique. Messiaen est lui-même à l'origine de 7 nouveaux modes, de 7 échelles sonores tout à fait personnelles qu'il utilise beaucoup dans sa musique. Et en ce sens, on dit de Messiaen que c'est un compositeur modal. Mais dans son œuvre « Mode de valeur et d'intensité », ce système de mode est étendu à davantage de paramètres sonores que la simple hauteur du son. Bref, petit cours d'histoire de la musique. Dans le siècle qui précède Messiaen, le 19e, l'imagination des compositeurs évolue dans un système qui s'appelle le système tonal. Ce système est basé sur un rapport de hiérarchie entre les notes. Mais au cours du 19e, ce système se complexifie, ses rapports de hiérarchie deviennent de plus en plus flous et Schönberg, au début du 20e, propose une bascule. Puisque l'on perd cette sensation de hiérarchie entre les notes, comme dans la musique de Wagner par exemple, ce qu'on peut appeler le flou tonal, eh bien généralisons l'idée qu'aucune note n'est plus importante qu'une autre et systématisons le principe suivant, on ne peut pas répéter une note tant que les 11 autres n'ont pas été jouées. Voilà la naissance du système à 12 sons, la musique dodécaphonique, qui met donc les notes en série. Et l'idée qui viendra ensuite est d'appliquer ce système de série à d'autres paramètres sonores tels que la durée des notes, l'intensité, c'est-à-dire les nuances, le timbre, etc. Ce qui nous mènera à la musique sérielle et dans le cas les plus extrêmes au sérialisme intégral. Messiaen, lui, n'a jamais été ni un compositeur dodécaphonique ni un compositeur sériel. Et pourtant, avec cet unique et légendaire mode de valeur et d'intensité, c'est lui qui va ouvrir la porte au sérialisme intégral. Il propose d'abord, pour cette œuvre, une échelle de 36 notes, du grave à l'aigu. C'est en quelque sorte le mode des hauteurs de son. À cela, il ajoute un mode rythmique, c'est-à-dire 24 durées de son, du très long au très bref. Chacune des 36 notes de départ se voit assigner une durée différente, tirée des 24 durées arbitrairement définies. Et Messiaen applique cela aussi aux articulations, c'est-à-dire piquées, liées, et aux nuances, piano ou forte. Et en formalisant à l'extrême un processus de création, Messiaen invente donc, en quelque sorte, le sérialisme intégral. La mise en série organisée de tous les paramètres sonores, dans ce qui sera pour lui-même en tout cas qu'un très bref moment sans conséquence dans le reste de sa production ultérieure. Mode de valeur et d'intensité est donc une œuvre dont l'importance est essentiellement historique, mais musicalement, contrairement à ce qu'en a dit Olivier Messiaen, ce n'est quand même pas 3 fois rien.
Thank you.
Roger Muraro, piano, extrait de Mode de valeur et d'intensité, deuxième étude des études de rythme d'Olivier Messiaen. Dernier volet de notre bref survol de la personnalité du grand compositeur français qui est né en 1908 et mort en 1992, Olivier Messiaen bien sûr. Dernier volet, la transmission. Car tout au long de sa vie, Messiaen a également été un grand professeur, formant d'autres compositeurs aux esthétiques d'ailleurs fort différentes les unes des autres. Messiaen était un compositeur qui a toujours veillé à ce que ses étudiants se révèlent à eux-mêmes avant toute chose. Et comme l'a si bien dit Betsy Jolas, qui fut son élève, le grand Messiaen n'a jamais formé de petit Messiaen. Car dans sa classe mythique au conservatoire, qui au cours des années eut des noms différents, classe d'analyse et d'esthétique, classe de philosophie de la musique, classe de composition, ce que faisait Messiaen en fait avec ses élèves, c'était avant tout de l'analyse des œuvres des grands maîtres. Mais de manière tout à fait originale, ainsi que nous le montrent certaines des thématiques étudiées, je cite, « l'accentuation chez Mozart, l'ondulation chez Debussy, les personnages rythmiques dans le Sacre du printemps ». Avant tout, Messiaen a permis aux compositeurs de s'approprier l'analyse musicale au détriment des analystes professionnels, les musicologues. Parce que pour Messiaen, seul comptait l'analyse qui devait servir aux compositeurs. Une analyse subjective, presque égoïste. Bref, une analyse par le compositeur, pour le compositeur. Cette fameuse classe de Messiaen aura vu passer en 3 décennies la plupart des créateurs majeurs de la deuxième partie du XXe siècle, ce qui est assez incroyable. La génération des sériels, bien sûr, a commencé par Boulez, dont Messiaen dira « il est tellement intelligent et tellement musicien qu'il n'a pas besoin de professeur ». Mais aussi, comme le qualifiait Messiaen, le très génial Stockhausen. Xenakis aussi est passé chez Messiaen, voulant, raconte Messiaen, courageusement recommencer à zéro ses études musicales. Et Messiaen lui conseillant de cultiver ses différences et de faire de ses faiblesses des forces. Ses élèves, à Messiaen, n'avaient pas forcément la foi comme lui, ne voyaient pas forcément des couleurs. Mais certains ont puisé leur inspiration dans la nature ou chez les oiseaux, ainsi Gilles Tremblay, Jean-Louis Florenz ou encore François-Bernard Mache. Les compositeurs d'un des derniers grands courants clairement identifiés dans l'histoire sont aussi passés chez Messiaen, les chefs de file du mouvement spectral, comme Gérard Griset et Tristan Murail. Dans le raffinement harmonique de cette musique, on peut d'ailleurs tracer une filiation, certes hâtive, de Debussy, Messiaen, Murail ou Griset. Personnellement, je suis né trop tard pour avoir eu le privilège de suivre les cours de Messiaen, mais je me souviens avoir suivi les cours d'un très illustre compositeur, qui fut évidemment un de ses élèves, compositeur à qui nous n'avions pas manqué de demander « Alors, c'était comment chez Messiaen ?» Et bien qu'il nous ait répondu sur un ton détaché par un « Wouf, personnellement, je n'y ai pas appris grand-chose », on ne l'a jamais cru et nous pensions qu'il nous disait cela presque par pause, juste pour nous entendre dire « Non, ce n'est pas vrai ». Un, en revanche, qui a toujours clamé avoir énormément appris de Messiaen, c'est le prodige anglais George Benjamin. De tous ses élèves, c'est celui que Messiaen a le plus aimé. Né en 1960, incroyablement doué, pianiste, chef d'orchestre et compositeur, Benjamin n'avait que 16 ans lorsqu'il rencontra Messiaen pour la première fois. Son œuvre pour orchestre, Ringed by the Flat Horizon, composée alors qu'il n'avait même pas 20 ans, l'avait tellement impressionné que Messiaen avait alors affirmé « Benjamin est doué comme devait l'être le jeune Mozart ». Sa musique, disait Messiaen, est merveilleusement entendue, ce qui dans sa bouche était le plus beau des compliments. Voici pour terminer une œuvre un peu plus récente de George Benjamin, composée pour la danse, Dance Figures.
Thank you.
Le BBC Symphony Orchestra, dirigé par Oliver Knussen, c'était de larges extraits de Dance Figures, une pièce de George Benjamin, élève d'Olivier Messiaen, car ce soir, dans le grand kaléidophone, nous dressions le portrait du grand compositeur français, mort en 1992. À la technique, aujourd'hui, il y avait Michel Mestre, attaché de production Françoise Monteil, et c'était une émission réalisée par Philippe Petit. À 19h sur France Musique, il est l'heure de retrouver Thierry Beauvert.